Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite de passer un très bon sabbat. Nous pouvons imaginer que si nous avions grandi avec le Christ, le Messie, que le Christ était notre frère aîné, cet exemple parfait, nous pouvons imaginer que nous aurions essayé de suivre son exemple parfait. Si nous sommes nés après tout dans une très bonne famille juive, qui connaissait l'Ancien Testament, qui connaissait les prophéties, qui savait que le Messie devait venir à un moment donné, comme j'ai dit, nous pourrions imaginer qu'on aurait suivi cet exemple parfait du Messie. Mais ce n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas pour Jacques, entre autres, Jacques qui était son frère ou son demi-frère. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de Jacques, de son exemple et de sa transformation. Et nous allons commencer avec son identité. Si vous voulez bien, dans Galates chapitre 1 et le verset 19. Vous voulez peut-être garder votre place ici dans Galates 1, Galates 2 parce qu'on va... On va y revenir. Dans Galates, chapitre 1, et le verset 19. Nous lisons ceci. Mais je ne vis, je saute au milieu d'un contexte ici, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc il parlait bel et bien de Jacques. Ici, il ne s'agit pas du Jacques, le frère de Jean, il s'agit, qui a été tué par la suite, il s'agit ici d'un autre Jacques, Jacques le frère du Seigneur, donc le demi-frère du Christ lui-même. Et il était peut-être le frère, enfin pour ceux qui allaient venir, les autres frères du Christ, il était peut-être l'aîné. Il est toujours mentionné en premier. On peut donc, comme j'ai dit, on peut imaginer qu'il soit l'aîné des autres frères qui allaient suivre. Dans Matthieu chapitre 13, verset 55, par exemple. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 55. Et peut-être s'il était le plus aîné des autres frères qui allaient suivre, il sentit peut-être une responsabilité certaine. Matthieu chapitre 13, le verset 55. Et vous avez la liste des frères qui est donnée ici. Là aussi, je saute au milieu de contexte. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? La liste des quatre frères. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Cette famille, comme j'ai dit, typiquement juive. Typiquement juive aussi, parce que ne serait-ce qu'à cause des noms. Vous avez bien sûr le Jésus, qui est dérivatif du nom hébreu Josué, sauvé, délivré, mais vous avez Marie, bien sûr, vous avez Joseph, vous avez Jacques lui-même, et ça remonte à l'hébreu, et ça remonte à Jacob. Vous avez Simon, en l'hébreu c'est Siméon. Et vous avez Jude, l'hébreu c'est Yuhada ou Judas. Ce sont c'était à l'époque, donc des noms très populaires, et aussi des noms, parce qu'on les retrouve dans l'Ancien Testament, des noms très religieux. Donc une famille juive, il est né, Jacques est né dans une famille juive, très religieux. Du reste, Jacques avait des très bons parents, puisque c'est Dieu qui les avait choisis, et des très bons parents parce qu'ils croyaient. Ils croyaient ce que Dieu disait. Et là, on va se rapporter, si vous voulez bien, à Luc chapitre 1, verset 27. Luc chapitre 1, verset 27. Bon, on va commencer avec le verset 26 pour situer le contexte. Luc chapitre 1 et le verset 26. Au sixième mois, L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. Fiancée à l'époque, c'était un engagement, c'est pas comme maintenant, c'était plus important, c'était un engagement légal où il y avait des vœux. Un engagement légal où il y avait des vœux. Et Marie, bien sûr, se posait la question. Elle demande, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et j'ai trouvé c'est intéressant cette phrase, tu as trouvé grâce devant Dieu. On le trouve. Abraham fait référence à une phrase comme ceci, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, quand le Christ vient avec les deux anges, juste avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. » Et on le trouve également à propos de Moïse. C'est Dieu lui-même qui dit à propos de Moïse, « Car tu as trouvé grâce à mes yeux. » Donc, deux hommes prestigieux, deux hommes de Dieu. Et voilà que la phrase est employée également pour Marie. Ça nous donne une idée, si vous voulez, de qui elle était, comment elle était, et la foi qu'elle avait. Luc chapitre 1, verset, je vais un peu plus loin. Luc chapitre 1, le verset 38. Marie dit, une fois donc que la chose est révélée, une fois que ce miracle extraordinaire est expliqué, Marie, sa réponse, la réponse de Marie est extraordinaire parce qu'elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Marie connaissait sans doute le sort réservé à une vierge qui était fiancée et qui couchait avec un autre homme. Et pourtant, elle avait la foi. Pourtant, elle avait la foi et elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et puis, on termine Luc, ce contexte de Luc. Je n'aurais pas dû le quitter. Dans Luc chapitre 1, le verset 45, cette fois-ci, Luc chapitre 1, 45, c'est Élisabeth qui parle, la femme de Zacharie. Et puis elle dit dans le verset 45, heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie a cru. Marie a cru. Marie doit garder toutes ces choses dans son cœur, repasser dans son cœur. C'est la même Marie qui était dans l'admiration avec Joseph, des choses qu'on disait du Christ. Marie n'a pas tout compris, mais Marie a cru. Et Marie a fait preuve de foi. Beaucoup de foi. Le beau-père du Christ, c'est donc le père réel de Jacques, le beau-père du Christ était, je cite la Bible, un homme de bien. Et là aussi c'est intéressant parce que le mot bien est traduit souvent dans la Bible par le mot juste. C'était un homme qui était juste. Donc vous avez Jacques, qui est né après le Christ, Jacques qui a une mère qui avait beaucoup de foi, qui avait un beau-père, enfin un père qui était juste, et il voulait pas les diffamer, donc Marie, bien sûr, quand il a appris qu'elle était enceinte, il voulait rompre secrètement avec elle, qui connaissait également ce que la Bible dit à ce sujet-là, mais une fois que l'ange lui a expliqué, il a obéi, et il a pris sa femme avec lui, et un ange est apparu à Joseph à plusieurs reprises, et chaque fois, il a obéi. C'était un homme juste, un homme de bien, très responsable. Et donc, vous avez Jacques qui a ses deux parents qui sont des exemples. Deux parents qui sont des exemples. Je reviens à Luc, chapitre 2, verset 40. Sans parler de l'exemple du Christ lui-même. Il a grandi avec le Christ était plus âgé, et Donc, il a pu voir l'exemple parfait du Christ. Luc chapitre 2, verset 40. On revient à Luc. Luc 2, 40, un petit peu en arrière. Luc 2, 40. Or, l'enfant, donc le Christ, croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Donc, cet exemple de sagesse, Jacques l'avait sous les yeux tous les jours. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il était différent et à quel point il était différent. Et même quand le Christ, à 12 ans, est allé au temple, les docteurs étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et puis c'est marqué encore après, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est dans le verset 52. Toujours Luc, chapitre 2, et le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il a l'exemple de ses parents. Jacques avait l'exemple de ses parents. Et il avait aussi l'exemple parfait du Christ. Mais quand on regarde les frères du Christ, les demi-frères, c'était différent. Jean chapitre 7 et le verset 2. Jean chapitre 7, verset 2. On lit quelque chose ici qui est différent, bien différent de ce que nous avons lu jusqu'à maintenant. Jean chapitre 7 et le verset 2. Jean chapitre 7, verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche, et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Ils avaient leur agenda pour le Christ, pour le Messie. « Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Donc, il disait à leur demi-frère ce qu'il fallait qu'il fasse. Verset 5, la raison. La raison pour laquelle il tenait un tel langage, verset 5, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Ils ne croyaient pas. La mère du Christ croyait. Et ici, on voit que les frères du Christ ne croyaient pas en lui. Ils avaient leur propre raisonnement. Et on cite, enfin pour citer, je ne vais pas m'y rapporter, Luc chapitre 4, verset 24, Luc 4, 24, « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Le mot « croyez », ça peut être traduit par « foi ». Et une des définitions qui est donnée à propos de ce mot, c'est « penser être vrai ».« Penser être vrai », »,« être persuadé de ». Et c'est le même mot que nous trouvons dans Matthieu 21, verset 32. Là encore, je ne m'y rapporte pas, je cite Matthieu 21, verset 32. Il est question ici des principaux sacrificateurs, les anciens du peuple. Et voilà qu'on trouve dans la même catégorie, le verset 32, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. » Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Donc la Bible met les frères du Christ, pour les croyances, dans la même catégorie. Dans la même catégorie que les sacrificateurs et les anciens du peuple. Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Il y avait aussi beaucoup de respect pour le Christ quand il était sur terre. Les disciples du Christ, régulièrement, quand ils parlaient du Christ, parlaient du Seigneur. Marie de Magdala parlait de mon Seigneur, au Rabboni, à la fin. Beaucoup de respect. Et puis nous voyons dans Matthieu chapitre 16 et le verset 16. Matthieu chapitre 16 et le verset 16. Verset 15 déjà. Vous rappelez la question que le Christ parle à à ses disciples, je crois que c'est à Pierre, il demande, « Qui dites-vous que je suis ?» Matthieu chapitre 16, verset 15. On sait à ses disciples, verset 15, et vous leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc, beaucoup de respect, et pas uniquement ça, ils ont reconnu qui était le Christ. Christos en grec, loin, et en hébreu, le Messie. Donc, ils reconnaissaient, Pierre reconnaissait que le Christ était le Messie. Le Christos, c'est l'équivalent grec, donc, du Messie, de l'hébreu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Avec tout ce qui s'est englobé, le Fils de Dieu vivant, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dieu a ouvert les yeux pour qu'ils comprennent. Dieu a ouvert les yeux pour qu'ils comprennent qu'il était le Messie. Et le frère du Christ, y compris Jacques, Dieu n'avait pas encore ouvert les yeux. Parce que les frères ne lui ont pas donné le respect qui lui était dû. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Jean 7 et dans Marc chapitre 6, verset 4. Dans Marc chapitre 6, verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète, parce qu'il est retourné chez lui, un prophète où les gens le connaissaient, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Donc le Christ savait de quoi il parlait parce qu'il avait ses demi-frères et ses demi-sœurs qui ne croyaient pas à ce moment-là en lui. Qui ne croyaient pas en lui. Il allait y avoir un changement spectaculaire. Et nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15, parce que je vous ai parlé de la transformation donc de Jacques, 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 4, parfois nous parlons de Pierre, à quel point il a changé. Pierre qui était lâche, qui a renié le Christ, et on parle peut-être beaucoup moins de Jacques, mais le changement est aussi spectaculaire. Lui qui n'a pas cru en son demi-frère, qui n'a pas cru qu'il était le Messie, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 4, nous voyons ici, après ce changement, à quel point il a changé, et qu'il est ressuscité, bon, là, verset 4, je saute au milieu d'un contexte, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Cephas, donc après la crucifixion, la résurrection du Christ, qu'il est apparu à Cephas, puis aux 12. On parle donc de 12 apôtres, enfin, ça va être 11 à ce moment-là, un des apôtres qui était remplacé. Ensuite, verset 6, ensuite il était apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, mais Jacques, maintenant, c'est pas de Jacques, le frère de Jean, parce qu'on vient de nommer les 12 apôtres. Et Jacques, le frère de Jean, faisait partie des 12 apôtres. Ici, il s'agit de quelqu'un d'autre, verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et donc, Jacques est appelé un apôtre ici. Après la résurrection, dans Actes chapitre 1. On le trouve dans Actes, et il y a déjà un très grand changement. Dans Actes chapitre 1, verset 1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire, enseigner dès le commencement. Verset 15. Déjà le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Donc, après sa résurrection, il s'est montré aux apôtres, et on le trouve aussi dans Actes chapitre 1, à partir de verset 12, lorsque le Christ est monté au ciel, il retourne à Jérusalem, les apôtres retournent à Jérusalem, verset 12. Alors ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés et montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, donc dans la liste des apôtres, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Donc ils étaient unis, ils étaient ensemble, ils étaient en communion avec Dieu, avec Dieu le Père, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce sont les frères Adelphos en grec, c'est pas les disciples, c'est un autre mot pour les disciples, avec les frères de Jésus. Donc, Jacques y était à ce moment-là, et il était avec les disciples du Christ. Et certainement qu'à ce moment-là, il savait que le Christ était le Messie, parce que c'était le seul être humain qui ait jamais été ressuscité à une vie immortelle. Il y a des êtres humains qui ont été ressuscités à une vie physique, mais pas à une vie immortelle. Et certainement que Jacques a avancé, par le but spirituel, il a avancé à pas de géant. Ce qui est intéressant, c'est que le Christ, il a semé pendant sa vie. Il a semé par son exemple, parce qu'il était parfait. Et Jacques avait tout le loisir de réfléchir à l'exemple parfait du Christ quand il était converti, quand il a commencé à changer et qu'il a commencé à devenir quelqu'un d'autre. Je reviens à Galates chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure. Galates chapitre 2, le verset 9. Il y a quelque chose ici qui est intéressant et qui nous permet de mieux comprendre Jacques et mieux comprendre la Bible et mieux comprendre notre étude du Nouveau Testament. Jacques, Galates chapitre 2, verset 9. C'est Paul qui parle ici. Galates chapitre 2, verset 9. Là aussi, je saute au milieu d'un contexte. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Vous avez donc les trois colonnes qui sont mentionnées, qui sont regardées comme des colonnes, Jacques, Cephas et Jean. Pourquoi c'est pas marqué Cephas, Jean et Jacques? Parce que Jacques était converti plus tard. C'est intéressant que nous trouvons cette même ordre dans les épîtres, ce qu'on appelle les épîtres catholiques ou les épîtres générales, à la fin. Et chacun de ces épîtres, Jacques, Cephas ou Pierre et Jean, ont leur propre foi, leur propre thème, pardon. Jacques parle de la foi, Pierre parle de l'espérance, parce qu'il savait qu'il allait mourir, le Christ lui avait prédit comment il allait mourir. Et Jean, bien sûr, parle de la charité. Et c'est le même ordre que ce que nous trouvons ici dans Galates. Qu'est-ce que nous trouvons, puisqu'il s'agit de la foi, l'espérance et la charité, qu'est-ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 13? 1 Corinthiens chapitre 13, vous vous rappelez, à la fin de 1 Corinthiens 13. Mais maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Intéressant que la Bible fait un ensemble. Et intéressant qu'on trouve ces trois thèmes dans cet ordre-là. Et Jacques est cité en premier, c'est pas Cephas, c'est pas Pierre. Jacques, par la suite, a une position très importante. Actes chapitre 12, le verset 17. Vous vous rappelez le contexte? Le contexte, c'est Pierre qui est en prison, Pierre qui est libéré, et puis toute l'église prie pour Pierre à ce moment-là. Actes chapitre 12 et le verset 17. Ben, c'est assez amusant d'un côté, parce que toute l'Église prie pour lui. Je vais remonter un petit peu en arrière. Il est libéré, miraculeusement. Verset 12. Lorsqu'il est libéré, après avoir réfléchi, il se dirigeait vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Voilà que toute l'Église prie pour qu'il soit délivré. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Et pourtant, il priait pour qu'il soit délivré et puis dit, « Tu es folle. » Mais elle affirma que les choses étaient ainsi et dit, « C'est son ange. » Il croyait toujours pas, hein? Cependant, Pierre continuait à frapper, ils ouvraient et furent étonnés de le voir. Logiquement, pourquoi être étonné si on prie pour que la chose arrive? Ils ouvraient et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et dit, annoncez-le à qui? À Jacques et aux frères. Jacques avait une position de prééminence. Et nous voyons aussi dans Actes chapitre 15, là, avec la conférence ministérielle, qu'il avait aussi cette même position de prééminence. C'est lui qui a donné le conseil final. C'est lui qui a donné, tout le monde, mais c'est surtout Jacques qui était en avant et qui a donné le conseil à Paul de ce qu'il fallait faire. On l'a vu tout à l'heure, Jacques était un apôtre. Galates chapitre 1, verset 18. Galates chapitre 1, verset 18. Trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas, et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc, là aussi, on voit sa position, on voit le chemin qu'il a fait, si vous voulez, depuis qu'il était quelqu'un, le frère du Christ, non-croyant, qui n'a pas cru. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Et nous voyons dans chapitre 2, verset 2, la suite. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais, donc à Jérusalem, j'y exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Le plus considéré, et Jacques était parmi les plus considérés. Les colonnes, dans le verset 9, on l'a déjà vu, mais c'était sa réputation, hein. C'était sa réputation. Entre parenthèses, nous allons voir ça tout à l'heure, mais Jacques ne faisait pas valoir son apostolat. Alors, on arrive à l'épître de Jacques, parce que ce que j'ai voulu faire dans le temps qui me reste, c'est d'extraire un certain nombre de choses de l'épître de Jacques et voir que Jacques les appliquait dans sa vie. Si on regarde l'épître de Jacques, contrairement à l'épître ou aux épîtres de Paul, il n'y a pas dans l'épître de Jacques des choses, je cite, « difficiles à comprendre ». C'est normal, si c'est un épître qui est général, si c'est un épître de base, si c'est quelque chose que vous allez logiquement commencer à étudier avant d'aller dans ce qui est spécifique, comme Paul, c'est logique qu'il y a des choses qui ne sont pas difficiles à comprendre. Parce que dans Jacques, ce que nous voyons dans Jacques, dans l'épître de Jacques, ce sont des choses faciles à comprendre, des choses à la portée de tous, à notre portée, des choses avec lesquelles nous sommes familiers, pratiques, lucides, et avec lesquels nous pouvons identifier. après tout, le père de Jacques était un manuel, exerçait un métier manuel. Et comme j'ai dit, c'est dans Jacques que nous pouvons voir des phrases telles que, et je cite, que si on doute, c'est semblable, parler donc de la sagesse, et que si on doutait, il fallait demander sans douter, que si on doute, c'est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Une agitation, une instabilité constante, on peut identifier avec les flots de la mer qui sont agités par le vent. Tout le monde peut s'identifier avec ça. Il parle, ça c'est le chapitre 1. Le chapitre 1 aussi parle des fleurs de l'herbe qui dessèchent et que la beauté disparaît. Là aussi, c'est pas difficile de s'identifier, de d'imaginer ça. Il parle d'exception de personne. Quelqu'un qui entre, c'est très picturesque ce qui est décrit, quelqu'un qui entre avec un habit magnifique, et quelqu'un à côté de ça qui est misérablement vêtu. C'est toujours d'actualité, ça. Les gens vont aller vers quelqu'un qui est un habit magnifique. Ils vont délaisser quelqu'un qui est misérablement vêtu. Pas de peine à imaginer. Ça, c'est chapitre 2. Chapitre 3, ne branche point en parole. Il parle des morts, il parle de la parole, donc. C'est un homme parfait qui ne branche point en parole. Il parle des morts dans la gueule des chevaux. Il parle des navires qui, un gouvernail qui dirige tout un navire. Ça, c'est chapitre 3. Et la patience, le laboureur qui attend le précieux fruit de la terre. Le fermier qui attend, qui est patient, enfin, en tout cas, qui était. Maintenant, ça a peut-être un peu changé. Mais, comme j'ai dit, on peut s'identifier, c'est un épître général, un épître où on discute les choses de base qui sont faciles à comprendre. Et ce que j'ai voulu faire, donc, pour le reste, comme j'ai dit, pour le reste de ce sermon, c'est d'extraire un certain nombre de choses qu'on trouve dans l'épître de Jacques et qui étaient présentes aussi dans la vie de Jacques. La première chose, c'est l'humilité. Si vous naissez dans une famille prestigieuse, logiquement, humainement parlant, vous allez faire valoir vos origines, votre famille, d'où vous venez. Vous allez vous vanter, peut-être, humainement parlant. Ça, c'est humain. Mais Jacques ne faisait pas ça. Et pourtant, c'était le Christ qui a dit son demi-frère, le Messie. Mais il ne fait pas ça. Jacques, chapitre 1, verset 1. On trouve à la fois l'exemple et l'humilité qui est sous-jacente, si vous voulez, ici. Jacques, chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Son introduction, contrairement à Paul, contrairement au premier épître de Pierre, il dit pas qu'il est apôtre. Il dit serviteur de Dieu. Et le mot en grec, c'est encore plus fort, c'est doulos, c'est esclave. La version Darby emploie le mot esclave. Donc il se présente en tant qu'un esclave de son frère, de son demi-frère, et du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur, c'est la profondeur de sa conversion. Ses yeux ne sont pas sur lui-même. Peut-être il s'est rappelé aussi comme il a traité son frère quand son frère était vivant. Mais on voit ici un trait très marqué de l'humilité. Que Jacques vivait par l'humilité, pratiquait l'humilité. Les yeux, comme j'ai dit, ses yeux n'étaient pas sur lui-même. La deuxième chose qu'on peut voir dans Jacques et qu'on peut aussi constater dans la vie, dans sa vie personnelle, c'est l'accent qu'il y a sur la loi. Dans Jacques chapitre 1, verset 23. l'action sur la loi. Jacques chapitre 1 et le verset 23. Jacques chapitre 1, verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, ouais, il met l'accent sur la loi parfaite, la loi parfaite, la loi de la liberté, il souligne la valeur de la loi de Dieu. La loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il soutient la loi et c'est un miroir, donc, qui révèle et qui, un miroir, entre parenthèses, nous montre nos imperfections. Nous montre nos imperfections. Il parle beaucoup. La loi est mentionnée dans les épîtres générales, mais surtout dans Jacques. Surtout dans Jacques. Jacques chapitre 2, verset 8. Il revient à la loi. Jacques chapitre 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme les transgresseurs. Verset 10. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, voyez la force qu'il donne à la loi, et que même si on pêche contre un seul commandement, on devient coupable de tous. Verset 11. En effet, celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Il y a tellement de problèmes qui sont résolus si les gens observaient la loi de Dieu. Et lui met l'accent sur la loi, c'est comme j'ai dit, c'est un épître général, c'est un épître où c'est bon de commencer l'étude de la Bible parce que ça nous donne une base. Paul parle des choses, beaucoup de choses spécifiques et des choses qui sont parfois difficiles à comprendre. Jacques nous donne une base, et une base qu'il pratiquait lui-même dans sa propre vie. Jacques chapitre 4, verset 11. Jacques chapitre 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Non, la loi, c'est la loi de Dieu qui nous met à l'abri de bien des choses. Après tout, Paul lui-même disait que la loi est donc sainte et le commandement saint, juste et bon. Je vais vous donner un exemple dans Actes chapitre 21 qui montre ce que Jacques a fait et qui montre à quel point il soulignait la loi dans sa propre vie. Actes chapitre 21, on va commencer avec le verset 18. Actes 21, verset 18. Le lendemain, Paul se rendait avec nous chez Jacques. Chez Jacques, donc, le frère du Christ. Et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il leur raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Et quand ils furent entendus, ils glorifiaient Dieu. Puis lui dire, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. » Oui, pour la loi. « Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. » Que faire donc? Donc Jacques et les autres qui sont avec lui donnent ce conseil. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Il donne ce conseil et ça rejoint tout à fait ce que nous trouvons dans l'épître de Jacques, où ils mettent l'accent sur la loi. Un autre aspect qui se dégage de l'épître de Jacques, c'est le fait qu'il va très loin, l'épître de Jacques va très loin dans la justice. Jacques chapitre 4, verset 17. L'épître souligne la justice, va très loin dans la justice. Bon, je ne vais pas lire tous les versets qui précèdent le verset 17, mais vous pouvez lire ça à la maison. On arrive à Jacques chapitre 4, le verset 17. Celui, donc, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ça, c'est le fait d'aller très, très loin dans la justice. Si on sait ce qui est bon et qu'on ne le fait pas, on commet un péché. Donc, si on veut vraiment faire le bien, c'est aussi dans le domaine de pratiquer ce qu'on sait être bon. Jacques chapitre 1, verset 14. Jacques chapitre 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consumé, produit la mort. Soit ce sont nos désirs qui nous contrôlent, soit c'est le contraire. Et on sait que le péché, ça se termine, à moins qu'on se repente, ça se termine avec la mort. Pour avoir une idée de la justice de Jacques, l'apôtre Jacques, il faut se référer à l'histoire. Il y avait un historien qui s'appelait Hégésippus, un écrivain historien du IIe siècle, et qui se référait à Jacques, justement. Et lorsqu'il se référait à Jacques, il parlait de Jacques le Juste. C'est logique par rapport à ce que nous venons de voir dans l'épître de Jacques. Il parle de quelqu'un qui était très, très zélé pour la loi de Dieu. C'est ce qu'on trouve aussi, nous venons de lire dans l'épître de Jacques. Donc, Jacques pratiquait ce qu'il prêchait. Et il prêchait ce qu'il pratiquait. Et c'est un peu difficile pour nous, impossible pour nous de vérifier maintenant, mais ce même historien disait que les genoux de Jacques ressemblaient à des genoux d'un chameau parce qu'il priait pendant tellement longtemps, qu'il avait des callosités à ses genoux, parce qu'il priait tellement, il passait tellement de temps à genoux. C'est logique. Et ça, c'est comme le témoignage de l'histoire, si vous voulez. Jacques le Juste. Il était connu pour être juste, Jacques le Juste. Ça, c'est le troisième point, la justice. Le quatrième point, j'en ai cinq. Le quatrième point, c'est la sagesse. La sagesse est soulignée dans l'épître de Jacques. Nous le voyons déjà dans le premier chapitre, Jacques chapitre 1 et le verset 5. On en a fait allusion tout à l'heure. Jacques chapitre 1 et le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. Et on a tous besoin de sagesse. Qu'il le demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. C'est la promesse de Dieu. Mais qu'il le demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable aux flots de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Chapitre 3, verset 13. La sagesse revient avec quelques détails à propos de la vraie sagesse, à propos de la sagesse de Dieu, parce qu'il y a une sagesse du monde qui est différente. Il s'agit ici de la sagesse de Dieu qui produit des fruits. Chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? La sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu contient une douceur. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient dans l'eau, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, donc les fruits sont mauvais, les fruits sont pas bons du tout, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse dans l'eau, la sagesse qui vient de Dieu, que Dieu nous donne, la sagesse dans l'eau est premièrement pure, ensuite pacifique, ça produit la paix. Ensuite pacifique, modéré, c'est sage d'être modéré. Conciliante, c'est sage d'être conciliant. Pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Il y a un écriture qui est intéressant, qui va de pair avec ce que nous venons de lire, qui se trouve dans Psaume 37 et le verset 30. Parce qu'on peut imaginer peut-être que la sagesse est une option que, bon, si on l'a, tant mieux, mais bon, c'est une option. Mais la Bible dit pas ça, hein. La Bible dit dans Psaume 37, verset 30, la bouche du juste annonce la sagesse. Tout le monde dit, si on est juste, il va y avoir la sagesse aussi. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Donc, ces deux choses vont de pair. La sagesse et la justice. La sagesse et la justice. Et on va trouver, nous allons pouvoir trouver un exemple de la sagesse de Jacques dans Actes chapitre 15, lors de la conférence ministérielle qu'il y avait avec la circoncision était discutée. Et nous arrivons donc à Actes chapitre 15. Il y avait des pharisiens qui se convertissaient, qui venaient dans l'église, et ceux qui étaient pharisiens avant avaient bien sûr, ils gardaient un certain nombre de choses, ils avaient plutôt des tendances légalistes. On arrive à Actes chapitre 15, le verset 12. Bon, Paul a pris la parole. Ah, excusez-moi, Pierre a pris la parole. Ensuite, Paul et Barnabas prennent la parole, verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Il faut peut-être aussi lire le verset 5. Juste avant que Pierre parle, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, donc maintenant convertis, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observance de la loi de Moïse. Il n'y avait pas d'unité dans l'Église à ce niveau-là, à ce moment-là. Pierre parle de son expérience, Paul parle de son expérience. Et verset 13, « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, donc, l'ambiance commence à changer ici à cette conférence. Et c'était important, c'était très important ce que Jacques allait dire. Il dit, verset 14, hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Et avec cela s'accordaient les paroles des prophètes. Il s'adresse, entre autres, à des anciens pharisiens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cite l'Ancien Testament. Il cite l'Ancien Testament. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit après cela, « Je reviendrai et je relèverai la chute de la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. » Donc, il commence à englober tout le monde maintenant, pas uniquement les Juifs, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Ils mettent ça dans son contexte et ils s'adressent pas uniquement aux Juifs. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Et ayant dit ceci, c'est ma façon de parler, une fois qu'il s'est adressé, entre guillemets, un peu aux pharisiens, il revient, verset 19, à la situation actuelle, et il dit dans le verset 19, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas les difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrit de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Des quatre choses spécifiques qui pouvaient être des problèmes. Verset 21. Car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville les gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours du sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon, cette désunité qu'il y avait, il y a un résultat, il y a la sagesse, il y a quelque chose de pacifique qui a été produit, verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église, maintenant l'Église est unie, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, homme considéré entre les frères, il est chargé d'une lettre ainsi conçue, il a même rédigé une lettre. L'unité de l'Église est retrouvée. L'unité de l'Église est retournée et en partie à cause de la sagesse de Jacques. Il pratiquait ce qu'il prêchait. Ensuite, on arrive, le cinquième, ça c'est le quatrième point, la sagesse. Le cinquième point, c'est la foi. Bon, Jacques est connu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je parlais des épîtres générales. Jacques est connu pour le fait de parler de la foi. Chapitre 2, verset 14. La foi avec les œuvres. Abraham avec les œuvres. Il était sur le point de sacrifier son fils. C'est mentionné dans Hébreux chapitre 11. Et nous voyons dans Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et donc une illustration donc, pour montrer ceci. Donc il prêchait sur la foi, il parlait sur la foi avec des œuvres, et là, pour montrer la foi de Jacques, là il faut de nouveau se rapporter à les historiens pour comprendre à quel point il avait la foi et qu'il a gardé la foi jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort en tant que martyr. Joseph a dit, il a gardé la foi jusqu'au bout. Joseph, l'historien juif, a dit qu'il était condamné à mort. Eusebius, un historien du IVe siècle, a parlé comme quoi on a demandé à ce qu'il renonce à sa foi, on l'a mis en haut du temple. Et puis, Hegesippus, l'autre historien que nous avons rencontré tout à l'heure, a dit qu'il était jeté, il n'a pas voulu renier sa foi. On a demandé à ce qu'il renonce à sa foi, il n'a pas renoncé à sa foi, sachant ce qui allait lui arriver, certainement. Il a été jeté en bas. Il n'est pas mort tout de suite, il a été lapidé et tué. Et il a prié pour que Dieu pardonne à ceux qui sont en train de le tuer. Donc Jacques a été un exemple vivant de la foi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. 2 Pierre chapitre 3 verset 15. 2 Pierre chapitre 3 et le verset 15. Là, je saute aussi au milieu du contexte. 2 Pierre chapitre 3 verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Dieu a donné une certaine sagesse à Paul. Paul était très instruit. Jacques aussi avait aussi la sagesse, mais une sagesse peut-être plus, sans être péjoratif, plus basique dans ce sens-là, et qui nous permet également de suivre la parole de Dieu. Mais une chose est certaine, quand on regarde la vie de Jacques, Il était, à plusieurs points de vue, il était un exemple. Il a été, sa vie a été transformée, il est devenu un exemple pour nous. Il y a les cinq points dont je viens de vous parler. Et une chose est certaine aussi, c'est que Jacques pratiquait ce qu'il prêchait, et il prêchait ce qu'il pratiquait. Et ça aussi, pour nous, c'est un exemple.